Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 14h en temps universel, 15h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. Une attaque diplomatique de la Turquie contre la France. Priée de rapatrier les djihadistes français actuellement détenus par les Kurdes de Syrie. 10 morts et des milliers de logements détruits dans les incendies de Los Angeles qui continuent. On parlera aussi dans ce journal d'une opération de la police ukrainienne contre les passeurs qui aident les hommes à quitter le pays, ce qui va l'éviter de faire la guerre contre la Russie. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez « C'est pas du vent », il y sera question du chant des oiseaux. La Turquie s'en prend à la France. La Turquie déplore le soutien de Paris aux Kurdes de Syrie et la Turquie demande à la France de rapatrier les djihadistes français actuellement détenus par les Kurdes de Syrie. Ankara, Anand Lohr.
Depuis des années, le soutien des Occidentaux, tout particulièrement des États-Unis et de la France aux forces kurdes syriennes, est perçu par la Turquie comme une trahison, ou du moins comme le signe que ses alliés ne s'intéressent pas à sa sécurité. Le fait que ces forces kurdes, les YPG, aient combattu contre le groupe État islamique et qu'elles gardent les camps de prisonniers djihadistes n'est qu'un prétexte aux yeux d'Ankara. C'est le sens des propos de son chef de la diplomatie à Khan Fidan.
Si la France a quelque chose à faire, c'est de prendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger dans ses propres tribunaux. Ce n'est pas de les confier au service pénitentiaire des YPG ou d'une autre organisation terroriste et de venir dire ensuite qu'ils soutiennent cette organisation.
Depuis le changement de régime à Damas, la Turquie menace chaque jour de lancer une offensive contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Mais elle semble privilégier d'abord le dialogue avec le nouveau pouvoir syrien pour atteindre son objectif, le désarmement et la dissolution des YPG. Ankara propose par ailleurs d'aider les autorités de Damas à prendre en charge la lutte contre le groupe État islamique et les milliers de djihadistes ainsi que leurs familles actuellement détenues par les forces kurdes. Anand Lohr, Ankara, RFI.
En Syrie, le maire d'une commune de la banlieue de Damas, exécuté en public par des hommes armés liés au nouveau pouvoir syrien. L'homme lui était un fidèle du régime de Bachar al-Assad et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, sa mort, son exécution a provoqué des scènes de joie dans sa ville. L'armée israélienne vient d'annoncer avoir mené des raids au Yémen contre des cibles de la rébellion Houthi. Des frappes aériennes menées notamment sur une centrale électrique et des ports sur la côte ouest et à l'intérieur du pays. Selon le gouvernement israélien, c'est un message clair pour les dirigeants houthis. Les derniers chiffres des incendies à Los Angeles, 5 incendies sont en cours, 10 personnes ont été tuées, des dizaines de milliers d'hectares de végétation brûlés, 10 000 bâtiments détruits, Nathanaël Vitran, alors que la région de Los Angeles fait déjà face à une pénurie de logements.
Oui, il a beaucoup été question dans les médias des stars hollywoodiennes dont les maisons des quartiers huppés sont parties en fumée. Mais les incendies ont aussi réduit en cendres des quartiers plus pauvres, anéantis des communautés noires notamment. Plus de 180 000 personnes ont été forcées d'évacuer face à l'avancée des flammes et risquent de se retrouver sans abri. C'est d'autant plus inquiétant que Los Angeles est déjà la ville la plus surpeuplée des États-Unis. Un logement est considéré comme surpeuplé quand il accueille plus d'une personne par pièce. À LA, ce taux est 3,5 fois au-dessus de la moyenne nationale. Dans certains quartiers, 40% des habitations sont concernées. Cette situation résulte de décennies pendant lesquelles les maisons individuelles ont été préférées aux immeubles d'habitation et l'expansion urbaine est venue grignoter la forêt. En octobre, la seule ville de Los Angeles comptait 45 000 sans-abri. La moitié de tous les sans-abri du pays se trouvent en Californie. L'accueil des futurs réfugiés s'annonce donc déjà comme un défi considérable.
Aux États-Unis encore, Donald Trump va savoir aujourd'hui à quelle peine il est condamné dans l'affaire Stormy Daniels, de l'argent versé pour acheter le silence d'une actrice porno. Il y a plusieurs mois déjà, dans cette affaire, Donald Trump a été reconnu coupable de 38 chefs d'accusation. Donald Trump Il annonce préparer une rencontre avec Vladimir Poutine pour en finir, dit-il, avec la guerre en Ukraine. Le président russe lui a répondu ce matin et Vladimir Poutine se dit ouvert au contact sans condition préalable. Sur le terrain de la guerre, l'armée ukrainienne est à la peine face à l'armée russe. Elle manque d'hommes entraînés et motivés. Alors la police ukrainienne a lancé une opération contre les réseaux qui facilitent la fuite vers l'étranger des hommes en âge de combattre, Anastasia Becchio.
Plus de 600 perquisitions menées à travers le pays. La police cible les organisateurs et participants de groupements qui ont aidé des centaines d'hommes à franchir la frontière, selon le communiqué publié sur la page Facebook des forces de l'ordre. Faux certificats, pots de vin payés aux gardes frontières, faux diagnostics ou encore mariage fictif avec une personne handicapée, les exemples sont nombreux. Selon diverses estimations, des milliers d'Ukrainiens ont pu quitter le pays illégalement en payant des intermédiaires ou des passeurs pour échapper à la mobilisation considérée comme injuste et corrompue. Régulièrement, les médias rapportent des cas de décès de personnes qui ont tenté de traverser des rivières à la nage, essentiellement aux frontières avec la Moldavie et la Roumanie. La police précise qu'il s'agit d'une première étape d'une opération visant à fermer ces filières. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, près de 300 procédures pénales ont été ouvertes et 120 fonctionnaires inquiétés selon le bureau d'enquête de l'État. On y retrouve des responsables de centres de recrutement de l'armée, des médecins ou des représentants des forces de l'ordre.
Anastasia Becchio du service international de RFI. Le Venezuela annonce un complot international contre lui, et cela quelques heures avant la cérémonie d'investiture du président vénézuélien, Nicolas Maduro, qui va entamer un troisième mandat de 6 ans. Il avait été réélu en juillet dernier lors d'une présidentielle au résultat très contesté. Le Venezuela, en conséquence, a annoncé la fermeture de sa frontière avec la Colombie pendant 3 jours jusqu'à lundi matin. En Équateur, 1 an de violence. On fait le bilan dans ce journal avec le 9 janvier 2023, les images d'une prise d'otage en direct à la télévision, des images qui avaient fait le tour du monde. Éric Sanson.
Il y a 1 an, le journaliste José Luis Calderón négociait en direct avec des preneurs d'otages, lui braquant un fusil sur la tempe et jouant devant lui avec une cartouche de dynamite. Un épisode traumatisant qui l'a poussé à s'exiler en Floride, où il a demandé l'asile. Une démarche qui l'a éloigné de sa famille, mais qu'il ne regrette pas.
Ici, je peux sortir marcher et me sentir en sécurité, alors qu'il n'y a plus de paix possible en Équateur. Nos élites sont incapables de se mettre d'accord pour mettre fin à la crise et à la violence brutale qui nous affecte.
Pourtant, le président Noboa a plutôt bien démarré, selon l'expert en thèmes de défense et sécurité, le colonel Mario Pazmiño, qui lui reconnaît 3 décisions positives.
Le premier point positif est la déclaration de conflit interne armé, car il fallait reconnaître la réalité et agir. Ensuite, reprendre le contrôle des prisons, qui étaient des bastions de la délinquance. Enfin, le référendum sur la sécurité et les nouvelles lois que le gouvernement a promulguées pour faciliter l'usage de la force publique.
Jusqu'à la mi-décembre, le nombre de morts violentes avait diminué de 16,5% en 1 an, mais avec 6547 homicides, l'Équateur reste le pays le plus violent de la région. Éric Sanson, Quito, RFI.
RFI, il est 15h08 à Paris. Quelques mots dans l'actualité française avec d'abord la colère du ministre de l'Intérieur qui affirme que l'Algérie cherche à humilier la France. Bruno Retailleau réagissait ainsi à la décision de l'Algérie de renvoyer en France un influenceur algérien que la France venait d'expulser pour des appels appelant à la violence. On va maintenant parler d'un joueur de tennis en pleine forme, un joueur de tennis français, malgré son grand âge, Gaël Monfils. Il a 39 ans, il vient de se qualifier pour la finale du tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande, en battant un joueur 2 fois plus jeune que lui, l'Américain Dinesh Bazavaredi. Et pour Gaël Monfils, c'est la 35e finale de sa carrière professionnelle.
J'ai fait un bon match aujourd'hui, je me suis bien sorti parce qu'il jouait vraiment bien, il jouait vite des deux côtés. Je savais qu'il avait une tendance à jouer vraiment très rapide avec son revers, donc j'ai réussi à bien le neutraliser. J'ai eu beaucoup de réussite dans le tie-break et après, pareil, au deuxième set, ça s'est joué à rien. Donc franchement, je suis content de m'en être bien sorti. Je suis content de faire une nouvelle finale.
Gaël Monfils, après sa demi-finale et donc sa qualification pour cette 35e finale de sa carrière, il jouera contre le Belge Zizou Berks. Un mot encore dans l'actualité française avec la mort d'un journaliste gastronomique très connu des téléspectateurs, Jean-Luc petit Renault. 15h10 à Paris, c'est la fin de ce journal. Dans un instant sur RFI, c'est pas du vent.